Alors bonsoir à tout le monde. J'aimerais prendre le temps aujourd'hui de pouvoir examiner un sujet qui est tout autour de nous présentement. Considérant le mois du calendrier grégorien dans lequel nous sommes et que nous sommes dedans, le monde suit ce calendrier. Et puisque nous devons vivre dans ce calendrier, nous devons comprendre d'où vient le calendrier. Mais aussi, quelles sont les implications de ce calendrier et d'où viennent certaines des cultures ou des choses qui sont faites dans ce calendrier. Et évidemment, ce calendrier humain, ce calendrier grégorien que l'on appelle, basé selon un pontife, le pontife Grégoire, qui nous a donné ce calendrier que nous utilisons aujourd'hui, devrait pas être le calendrier que nous observons ou que nous utilisons. Oui, nous devons le vivre, nous devons être dedans, mais ce de nos schèmes de référence devrait être selon le calendrier de Dieu. Nous devrions savoir que le début de l'année n'est pas le 1er janvier. Le début de l'année, pour nous, est au printemps, comme le Christ nous dit. En fait, en 2026, le premier de Nissan, donc le premier jour du premier mois, ou le mois de Abib, ou le mois des épis, si on est dans la Bible française, sera la date correspondante du 19 mars 2026. Donc, notre nouvel an devrait commencer en mars 2026, et non pas le 1er janvier. Et donc, nous ne devrions pas regarder vers le nouvel an de ce monde. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici, évidemment, c'est je veux parler de Noël et du nouvel an pendant le sermon aujourd'hui. Et je prends l'occasion de le faire au mois de novembre, parce que nous avons encore un mois pour nous préparer, un mois pour faire des préparations pour avertir vos familles, pour avertir vos proches, pour vous permettre aussi de savoir qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes nouveau à l'Église. Nous avons plusieurs nouvelles personnes. Donc, comment approcher ces célébrations? Comment expliquer pourquoi vous ne célébrez pas ces fêtes? Quelle approche prendre? Et en même temps, vous devez être capable de prouver pourquoi vous ne faites pas ces fêtes. Et non pas juste de dire « mon Église dit que l'on n'observe pas Noël ». C'est un début, mais vous devez en venir au point où vous êtes capable de dire « je ne célèbre pas Noël parce que je ne crois pas à ces célébrations ». Et j'en ai fait les preuves. Donc, si vous êtes plus ancien dans l'Église, vous avez quelques minutes avant que nous commencions à aller dans les versets. Mais essayez de mettre par écrit pourquoi vous ne célébrez pas Noël. Et encore une fois, n'allez pas vers « mon Église dit que c'est « j'ai pas le droit de célébrer Noël ». Non, vous devez avoir des preuves bibliques. Êtes-vous capable de prouver bibliquement que le Christ n'est pas né le 25 décembre? Êtes-vous capable de prouver que ces fêtes ne sont pas des fêtes que Dieu nous commande? Et vous devriez être capable de mettre des versets assez rapidement sur papier pour être capable d'établir ces choses. Donc, au cours du message d'aujourd'hui, nous allons regarder pourquoi nous n'observons pas Noël et le Nouvel An, ou le jour de l'An au Québec, et comment prouver ces choses par la Bible. Cela vous aidera, un, à asseoir pour vous-même ces croyances. Et ensuite, comme la Bible nous dit, de pouvoir défendre ces choses. Nous allons voir les versets dans quelques instants. Afin que vous puissiez savoir pourquoi nous ne les faisons pas, et pour que nous puissions prendre les bonnes décisions, et de ne pas participer ni de près, ni de loin, à ces faux concepts. Et comme Dieu nous dit, de ne toucher rien d'impur. Ce sont des choses qui sont impures par rapport aux yeux de Dieu. Et j'espère que c'est très clair. Et si ça ne l'est pas, j'espère que le sermon va vous permettre d'éclaircir ces points pour que ça devienne très clair. et en même temps pour ceux qui sont nouveaux, mais en même temps pour les anciens, être capable d'avoir des outils pour répondre aux questions. Et je répète, pour répondre aux questions, si elles vous sont posées. Et ne non pas prendre une boîte à savon, une boîte de lait, de vous mettre sur le coin de la rue et de commencer à décrier haut et fort votre bande de païens, vous faites des choses. Non, ça, ce n'est pas votre rôle. Mais si les gens vous posent des questions, vous êtes capable humblement de pouvoir répondre et vous avez les outils pour être capable de répondre. Donc, nous allons regarder à ces questions aujourd'hui. Le titre du sermon est tout simplement « Pourquoi nous ne célébrons pas Noël et le Nouvel An? » Pourquoi nous ne célébrons pas Noël et le Nouvel An? Et nous allons examiner plusieurs choses aujourd'hui. Examiner en fait trois points différents. Le premier point, quelle devrait être notre approche face à nos amis, à nos familles, en ce qui regarde ou en ce qui concerne le Noël et ou la Noël et le Nouvel An. Donc, quelle devrait être notre approche? Le deuxième point que nous allons regarder, c'est l'origine de Noël et du Nouvel An. Et nous allons regarder ce point-là d'une manière brève. Troisième, nous verrons trois façons de prouver que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Pour que ça, encore une fois, ce soit hors de tout doute, quelque chose que vous êtes capable de prouver et de dire non, cette fête-là ne représente pas le Christ en aucun point. Le Christ n'est pas dans le 25 décembre. Et cela ne représente pas le Christ d'aucune manière. Et donc, premier point, quelle devrait être notre approche face à nos amis, à nos familles? Et avant de développer ce point, j'aimerais simplement me reporter à trois versets. Reportons-nous en premier lieu dans Matthieu 10. Matthieu 10 et le verset 16. Matthieu 10 et le verset 16. Le Christ nous parle ici directement et nous dit quoi? Il dit, « Voici, je vous envoie, Matthieu 10, verset 16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, nous devons être simples. Ici, le mot « simple » ne veut pas dire « pas intelligent ». C'est une expression qu'on a au Québec. « Ah, tu fais simple, tu fais pas intelligent. » Non, c'est pas ça du tout. Ici, c'est le sens d'être inoffensif, de ne pas être à l'attaque, d'expliquer avec douceur, avec gentillesse qu'est-ce que l'on défend, qui on est. Donc, nous devons être comme des brebis au milieu des loups. Mais en même temps, nous devons être prudents ou sages, comme des serpents. Donc, nous devons faire attention à ces choses. Si vous vous reportez dans 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Pierre 3 et le verset 15. 1 Pierre 3, verset 15 nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, le Christ nous dit que nous devons être capables d'expliquer, de donner une défense, une raison de ce que nous croyons. Mais seulement lorsque cela nous est demandé. Et encore une fois, avec douceur et respect. Des mots qui sont importants. Encore une fois, votre rôle, le rôle d'un membre, est très différent du rôle du ministère. Le ministère doit apporter devant le monde le message de Dieu. C'est notre rôle. Mais au niveau de nous, dans notre vie personnelle, nous ne sommes pas là pour prêcher l'Évangile. Nous sommes là pour défendre notre raison d'être. Pourquoi nous sommes là? Être capable de l'expliquer. Un principe totalement différent. Mais combien important. Et maintenant, allons aussi dans 2 Timothée 4, s'il vous plaît. 2 Timothée 4. Et les versets 1 à 3. 2 Timothée 4, versets 1 à 3. Donc, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ne supporteront pas les paroles de Dieu. Donc, nous devons faire attention ici, en tant que chrétiens, de pouvoir expliquer, de pouvoir exhorter, de pouvoir reprendre, mais avec douceur et avec respect, les gens qui sont autour de nous, s'ils nous demandent encore une fois des questions, s'il y a une interaction qui se présente. Et si vous allez maintenant dans Deutéronome 12, j'ai lu ce verset la semaine passée dans la sermonnette, mais Deutéronome 12, versets 29 à 32, où le Christ nous dit, lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu auras chassé et que tu t'auras établi dans le pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en imitant, après qu'elles ont été détruites devant toi, des choses qu'ils faisaient. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et si vous regardez verset 32, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Noël semble agréable, n'est-ce pas? Il y a des belles couleurs. Tout le monde est gentil. Même les conflits, parfois, arrêtent. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose de mal? C'est un temps pour la famille. Et nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Et c'est là que l'on doit faire attention de ne pas être séduit et de croire à ce mensonge. Ces choses sont là pour nous séduire. Ce sont d'autres dieux qui sont en implication à ce moment-ci. Donc, la question qui se pose, quelle devrait être notre approche envers nos amis ou envers nos familles? Donc, il y a trois points, si on veut, trois différents aspects que l'on pourrait regarder. Donc, le point A, si on veut. Parce que nous sommes dans le premier point du sermon, mais il y a trois aspects ici. Donc, A, je vous dirais parler à votre famille à l'avance. Donc, vous savez que vous n'allez pas célébrer la fête de Noël. Vous savez que vous ne devez pas faire le nouvel an. Donc, parlez-en maintenant. N'attendez pas d'être rendu le 25 décembre au matin. Et puis là, vous dites à votre famille qui a déjà tout préparé, qui a tout fait les préparatifs déjà. Puis là, vous leur dites, « Non, aujourd'hui, moi, je fais pas Noël. » Vous allez créer, un, de la confusion. Deux, vous allez créer de la frustration. Donc, ne faites pas ça. Vous le savez à l'avance. Donc, prévenez que vous ne participez pas. Vos employeurs vont probablement déjà commencer à vous parler qu'il va y avoir un party de Noël au Québec. Ou une fête pour Noël. Il va y avoir un souper. Il va y avoir quelque chose. Peut-être que vous avez des échanges de cadeaux à l'ouvrage. Avertissez d'avance. Allez voir les organisateurs. Enlevez mon nom de sur les listes. Je ne serai pas à la présentation, je ne serai pas au souper, je ne serai pas à peu importe ce qu'est la célébration. Vous ne faites pas partie de ces choses-là. Avertissez à l'avance. S'ils vous demandent pourquoi, je vais l'expliquer dans une seconde, mais expliquer ou parler à l'avance. Si vous êtes déjà engagé dans certains des engagements, priez à Dieu de vous montrer comment sortir de l'engagement. Comment vous retirer? Comment être capable de vous délister des activités? Encore une fois, pour que vous puissiez être les exemples nécessaires. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez dire? Bien, vous devez simplement expliquer que vous changez vos habitudes et que vous croyez que c'est quelque chose d'autre. Que vous ne croyez plus au fait de vouloir ou de célébrer ces fêtes. Encore une fois, ne partez pas sur le sens d'accuser vos employeurs d'être des païens ou de vouloir sacrifier leurs enfants à des idoles. N'allez pas là. C'est pas ça le point. Ils ne comprendront pas. Non, dites que c'est vous qui changez. Vous avez compris quelque chose. Et encore une fois, essayez de ne pas vous prendre ou de vous mettre dans une élite, dans quelque chose qui est au-dessus de leur classe. Ce n'est pas vous qui avez compris ça par vous-même. C'est Dieu qui vous l'a montré. Donc, soyez sûr de ne pas enflammer ou d'irriter les personnes sans raison valable, car ils ne peuvent pas comprendre. Donc, abordez d'une manière personnelle. Donc, je ne veux pas faire ceci parce que je comprends quelque chose d'autre. Je veux faire quelque chose d'autre. C'est moi qui a changé, c'est pas vous qui êtes dans le tort. C'est moi qui change. Donc, mettez tout sur vos épaules. C'est vous qui portez le poids. Et c'est vrai. Donc, ne faites pas le contraire. Donc, je crois ou je dois faire autre chose. Et je ne célèbre pas, donc, la fête de Noël ou le Nouvel An. Je ne vous demande pas de changer. Mais je vous demande simplement de pouvoir respecter mon choix. Et encore une fois, votre employeur, majoritairement, ne comprendront pas. Ils vont penser que vous êtes un petit peu tourné dans le... Mais peut-être, ils vont vous respecter. Peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir quelques histoires ou quelques farces ou quelques jokes à votre sujet. Vous laissez porter. Vous ne répondez pas. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième aspect est que il se peut que vous allez recevoir des cadeaux ou des cartes. Je fais affaire avec des assurances pour la maison, pour d'autres choses, la voiture, et à toutes les heures, je reçois une belle petite carte de Noël par la poste. Et donc, qu'est-ce que vous, simplement vous faites? Si vous savez que je sais, vous la prenez et vous la mettez aux poubelles. Tout simplement. Vous ne faites pas de cas. Et c'est la même chose pour tous vos amis ou toutes vos relations qui ne connaissent pas qui vous êtes, qui ne savent pas où vous êtes rendu, qui veulent juste être gentils, parce que là, c'est la saison pour être gentils. Et vous faites simplement d'accepter. Et vous mettez à la poubelle une fois rendu à la maison. Évidemment, les gens qui vont vous offrir des cadeaux, vous offrez pas de cadeaux en retour. Et donc, après 1, 2, 3, 4 heures, les gens vont se tanner parce qu'ils vont dire, je reçois jamais de cadeaux, j'envoie des cadeaux, j'en reçois pas, pourquoi je continuerai à envoyer des cadeaux? Parfait! Pas de problème! Donc, ce sont des choses que vous devez faire tranquillement. Si quelqu'un veut offrir des cadeaux à vos enfants et qu'ils vous connaissent, mais à ce moment-là, dites-leur, on ne prend pas de cadeau à cette occasion. Si vous l'offrez un cadeau à mon enfant, vous avez 364 jours dans l'année pour le faire. Pas son anniversaire, pas Noël. Donc, 363. Mais vous pouvez, il y a plein d'autres temps pour offrir des cadeaux. Et donc, vous pouvez expliquer ces choses-là tranquillement. Faites preuve de sagesse. Laissez le temps à votre famille de s'adapter, surtout si vous êtes nouveau à l'Église. la réaction la première année peut être assez virulente. Mais avec le temps, ça devrait s'estomper. Et encore une fois, si quelqu'un dans votre famille persiste ou apporte la fameuse raison, c'est un temps de famille et tu brises la famille, ce que vous allez probablement entendre, dites-leur, il y a encore plein d'autres dates dans l'année où on a des congés, où on pourrait réunir la famille ensemble. Il y a plein d'autres temps dans l'année où vous pouvez faire à donner un temps familial. Ce n'est qu'une excuse parmi tant d'autres. Donc, prenez cette approche doucement. Troisième point, et ça, c'est une question que l'on a régulièrement. Si quelqu'un est dans un magasin et vous croise par hasard, si quelqu'un qui ne connaît pas vos croyances, vous croise sur la rue, et puisque c'est la mode, il vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Trouvez une phrase qui sera la vôtre. Mais dites quelque chose comme « Ayez de bonnes vacances vous aussi. » Ou dites simplement « Merci. » Ne soyez pas offensif. Encore une fois, soyons inoffensifs ou soyons doux et gentils dans notre approche. Donc, c'est à vous de trouver la réponse que vous voulez donner. Si quelqu'un vous demande si vous êtes prêt pour Noël ou quelque chose comme ça, vous pourriez peut-être tout simplement dire « J'ai hâte d'être en congé ». Ou si vous voulez répondre plus directement au fait d'être prêt pour Noël, vous pouvez tout simplement dire « Je ne célèbre pas Noël ». La face de votre interlocuteur va changer immédiatement. Et il va changer le sujet. Donc, regardez avec sagesse quel est le mieux, quelle est votre meilleure réponse. Donc, la conclusion de tout ceci est la suivante. Le monde rend Noël et le Nouvel An beau et attrayant le plus que possible. Et l'appât est assez attrayant, mais nous devons trouver une réponse qui représente qui nous sommes. Et encore une fois, nous avons pratiquement un mois d'avance, donc vous êtes capable de regarder et planifier déjà ces déplacements ou ces interruptions ou ces interrogations qui vont arriver et d'être capable de réagir correctement. Donc, de ramener une réponse qui respecte votre culture, une culture qui à Dieu au centre, le vrai Dieu au centre, et d'être doux et gentil lorsque vous avez des questions sur Noël. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions sur ce point, venez me voir après, ou appelez-moi cette semaine, il n'y a aucun problème, et nous allons pouvoir discuter plus longuement de votre situation. Maintenant, deuxième aspect, l'origine de Noël. Quelle est l'histoire de ce jour? Eh bien, vous avez une brochure qui a été publiée, je trouve, récemment, qui s'appelle Noël est-il chrétien, qui a été annoncée la semaine passée comme étant, vous devriez peut-être la lire, et je vous le suggère. Donc, si vous ne l'avez pas, demandez-le, ça nous fera plaisir de vous l'envoyer. Donc, Noël est-il chrétien? Absolument extraordinaire comme définition. Il y a plusieurs choses historiques dedans, plusieurs points dans lesquels vous devez être familier, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Mais j'aimerais aussi utiliser d'autres ici pour vous donner une petite histoire peut-être succincte. Donc, vous savez, en 245 de notre ère, Origène, qui est un catholique, donc c'est pas du tout quelqu'un de l'Église, dénonçait l'idée de célébrer la naissance du Christ en disant que l'anniversaire de Jésus n'était pas comme s'il en faisait un roi ou un pharaon. Et il soutenait que les pécheurs, donc les païens, et non les saints, célébraient les anniversaires. Noël, pour ainsi dire, n'a pas commencé dans le monde chrétien avant 354 de notre ère, donc presque 400 ans après Christ. Et c'est le pontife Jules Ier qui a choisi le 25 décembre comme date de naissance du Christ. Après cela, la date de Noël a connu des changements au cours de l'histoire, jusqu'en 800 ou autour de Charlemagne, où Charlemagne a été couronné empereur ou roi le 25 décembre de l'an 800, donc il y a 1200 ans. Donc, nous allons voir tout à l'heure que, effectivement, le Christ n'est pas né le 25 décembre. Et il y a plusieurs choses que vous pouvez aller voir, que vous pouvez prouver. On a fait une conférence sur Daniel 9, entre autres. Vous pourrez aller revoir la conférence sur Daniel 9. Et vous allez voir que le Christ n'est pas du tout né au début de après Jésus-Christ que l'on utilise aujourd'hui. Que le Christ, en fait, est né en probablement 4 avant Jésus-Christ, dans le temps d'Hérode. Et on sait que c'est dans cette époque-là, parce qu'on sait qu'Hérode était roi lorsque Christ est né, et que Hérode, selon les historiens, a régné en Palestine de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort, et sa mort était en 4 avant Jésus-Christ. Donc, on voit plusieurs choses là que vous pourrez aller voir. Je vais juste donner des références, Daniel 9, 25, où vous êtes capable de trouver la date à laquelle le Christ va commencer son ministère de 3 ans. Et si vous allez ensuite dans Luc, vous verrez que Christ avait environ 30 ans. On va y revenir dans une minute de toute façon. Et ensuite, vous pouvez voir que Hérode était le roi. Donc, je n'ai pas le temps ici de regarder toutes les traditions que l'on retrouve autour de Noël. Mais « Noël est-il chrétien » est une brochure que je vous suggère fortement. Maintenant, j'aimerais juste vous attirer votre attention sur une des traditions qu'ils utilisent à Noël. En fait, je voudrais parler ici rapidement du Père Noël. Intéressant comme il utilise le terme qui appartient à Dieu, Père. Deuxième chose, il est dit que cet homme ou cet individu reste où? Il reste au pôle Nord. Il reste au Nord. Si vous allez voir dans Ésaïe 14, verset 13, en fait, reportons-nous-y, juste pour vous donner une idée. Vous allez voir comment Satan est puissant. Ésaïe 14. Et ici, au partir du verset 13, on parle évidemment de la révolte de Lucifer. Lucifer a voulu essayer de prendre le trône de Dieu. Et dans Ésaïe 14, verset 13, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Un synonyme pour septentrion est nord. Le trône de Dieu se trouve où? À l'extrémité du nord. Quelle est l'extrémité du nord sur la terre? Le pôle nord. On ne peut pas être plus au pôle, ou plus au nord qu'au pôle. Intéressant. Superfuge absolument extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce que l'on dit aussi du Père Noël? Le Père Noël est censé savoir si vous avez été bon ou mauvais pendant toute l'année. Qui est la seule personne qui a le droit ou qui sait ce que vous avez fait pendant toute l'année? C'est Dieu. Voyez-vous la puissance du superfuge? La puissance du mensonge qui a été utilisé? Encore une fois, si vous regardez qu'est-ce que cette Père Noël est capable de faire, il est capable de faire le tour de la terre pendant une seule nuit. Quel est le seul être qui peut se déplacer et faire le tour de la terre dans une seule nuit? Ce n'est Christ ou Dieu. Voyez-vous la puissance? Et donc maintenant, nous enseignons à des enfants qu'il y a un être humain qui est capable de faire toutes les choses qui sont une prérogative divine. Donc, Dieu n'existe pas. Intéressant, hein? Un superfuge absolument extraordinaire. Si vous reportez à Jérémie chapitre 10, encore une fois, si vous êtes nouveau peut-être vous avez jamais vu, mais si vous êtes ancien, c'est un verset qui devrait absolument vous dire quelque chose. Jérémie 10, versets 1 à 4. Jérémie 10, versets 1 à 4. Écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives et ils ne parlent point. Et vous pourrez continuer à lire. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec un arbre de Noël? On va dans la forêt, on le coupe. Ensuite, on le porte dans la maison et on l'embellit. D'or, d'argent et toutes sortes d'autres astuces et décorations qui mentionnent ou qui apportent plein d'autres idées, d'autres coutumes. Et donc, Dieu nous dit de ne pas faire ces choses. Et ensuite, vous pourrez regarder dans l'Ancien Testament, il y a une référence à tout arbre vert, où les hommes de l'ancien Israël ont fait des hauts lieux, ont fait des lieux d'honorer de faux dieux sous tout arbre vert. Je vous donne quelques références ici. 2 Rois 17, versets 9 à 12, entre autres. 2 Rois 17, versets 9 à 12. Et au verset 10, vous allez voir tout arbre vert. Vous pouvez aussi regarder un autre passage, je ne m'y reporterai pas, 2 Chroniques 28. 2 Chroniques 28, versets 1 à 5. 2 Chroniques 28, versets 1 à 5, où Achaz se prosterne et offre de l'encens sous tout arbre vert. Et donc la chute d'Israël et de Juda s'est produite parce qu'ils n'ont pas aimé ni honoré Dieu. Et ils se sont prosternés et ils ont offert de l'encens, offert des cadeaux sous tout arbre vert, en faisant des hauts lieux. Et Dieu appelle ces gens-là des prostituées. Des gens aux courettes, des gens rebelles. Et vous pourrez faire une recherche, si vous voulez, taper dans un outil de recherche « tout arbre vert » et vous allez voir que la Bible française va vous rapporter 11 fois l'expression « tout arbre vert ». Et qu'est-ce que l'on utilise comme arbre de Noël? Un tout arbre vert, un arbre qui reste vert toute l'année. Absolument extraordinaire. Retournons à Deutéronome 12, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome 12, et cette fois-ci, prenons les versets 1 à 4. Deutéronome 12, versets 1 à 4. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes collines, sur les collines et sous tout arbre vert. Ne pas se présenter devant un arbre vert. Les feuilles de gui, ainsi de suite. L'arbre de Noël. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Dieu est très clair. Et le verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous n'adorerez pas le Seigneur, votre Dieu, avec de telles choses. Est-ce qu'on peut être plus clair? Donc, encore une fois, ce sont les origines de Noël, des origines que Dieu est absolument contre. Et l'on ne doit pas être associé ni de près ni de loin, puisque nous sommes citoyens des cieux. Nous avons une autre culture. Maintenant, troisième point. Nous allons regarder trois méthodes que la Bible nous donne pour prouver que le Christ ne peut pas être né le 25 décembre. C'est une impossibilité technique. Et nous allons regarder de trois méthodes différentes. Vous n'avez pas besoin de retenir les trois méthodes. Si vous voulez retenir les trois, parfait, pas de problème. Mais s'il y en a une ou deux qui sont plus compliquées, laissez-les de côté. Prenez celles qui fonctionnent pour vous. Donc, la première méthode est tout simplement une méthode mathématique. Première question que l'on doit poser, quand est-ce que le Christ a commencé son ministère? Quel âge avait-il? Vous devriez être capable d'avoir ce verset-là en tête pour encore une fois avoir une base, pour être capable de situer Christ dans le temps. Donc, quand est-ce que le Christ a commencé son ministère? Si vous allez dans Luc 3, Luc 3, verset 23. Luc 3, verset 23. Où il nous est dit ici, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et ensuite on descend dans sa généalogie jusqu'à la fin du chapitre 3. Mais donc, verset 23, le Christ avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère, ou environ 30 ans. Et si vous regardez juste les versets 21 à 22, vous allez voir que le Christ se fait baptiser. Et donc, c'est le début de son ministère après son baptême. Et combien de temps est-ce que le ministère de Christ va durer? Eh bien, il y a plusieurs versets que nous pouvons nous reporter. Daniel 9, entre autres, où il nous est dit que Christ va être retranché après une demi-semaine, donc après 3 ans et demi. Donc, le ministère de Christ va durer 3 ans et demi. Et si vous regardez dans plusieurs documents de recherche, entre autres dans le manuel biblique de Haley, la plupart des érudits vont vous dire qu'après le baptême de Christ, il y a à peu près 3 à 6 mois. Mais ensuite, on vient, si vous allez dans Luc 4, vous allez voir que le Christ, immédiatement après son baptême, va partir dans le désert pendant 40 jours. Ensuite, vous allez avoir dans Jean 1, à partir du verset 29, que lorsque le Christ revient après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, il va y avoir des jours qui vont se passer, qui vont se succéder. Et ensuite, si vous allez dans Jean 1, ou plutôt Jean 2, Jean 2 et le verset 13, vous allez voir un aspect important ici qui est, que nous pouvons retracer, que nous pouvons trouver dans la Bible, qui nous donne une marque dans le temps. Dans Jean 2, verset 13, il est écrit « La Pâque ». Des Juifs étaient proches et Jésus monta à Jérusalem. Donc, dans Jean 2, ici, verset 13, nous avons la première Pâque que le Christ va faire après son baptême. Donc, nous avons la première Pâque. Vous pouvez marquer votre Bible ici pour vous donner des indications, si vous voulez. Mais dans Jean 2, verset 13, première Pâque. Maintenant, allons dans Luc 6. Luc 6, versets 1 à 5. Luc 6, verset 1 à 5, il marquait, « Il arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversa des champs de blé, et il y a une explication ensuite de qu'est-ce qui se passe. » Donc, cette expression ici, second premier, est presque bonne. Le terme grec ici est en deux mots. Il veut dire « deuxième ». Et l'autre mot qui fait partie de cette expression est un pluriel de « sabbat ». Donc, c'est le « sabbat » après la Pâque. ou à sabbat après les pains sans levain. Et donc, dans Luc 6, nous croyons que c'est la deuxième Pâque du ministère de Christ qui est impliquée ici. Donc, nous avons la deuxième Pâque. Donc, une autre année complète vient de se passer. Et maintenant, si vous allez dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Versets 1 à 4. On revient dans l'Épître de Jean. Il est écrit après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de la mer de Tibériade. C'est le même lac. Et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne et il s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Donc, nous sommes ici à la troisième Pâque. Et nous allons voir qu'à cette occasion, le Christ va nourrir 5000 personnes. Et la période de l'année est la Pâque. Donc, c'est la troisième Pâque que nous voyons dans le ministère de Christ, ici, dans Jean 6. Et si vous allez à Jean 13, évidemment, ce sont des versets qui devraient vous être familiers. Jean 13, 14, 15, 16, 17. Nous sommes à la quatrième Pâque de Christ. Jean 13, verset 1. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, le quatrième schème référentiel que nous avons, c'est la quatrième Pâque, et c'est celle où le Christ va mourir. Christ va mourir le jour de la Pâque, lors de cette quatrième Pâque qui est mise dans l'Évangile. Et la Pâque arrive quand? La Pâque arrive en printemps. Encore une fois, selon le calendrier grégorien, en mars-avril. Selon le calendrier de Dieu, le 14e jour du premier mois. Donc, si on met tout cela ensemble, on a quoi? Nous avons que le Christ commence son ministère à environ 30 ans. Que pour une période de 3 ans et demi, il va prêcher, il va enseigner, et nous sommes capables de trouver qu'il y a 4 Pâques dans la Bible. Donc, 3 ans et demi sont faits. On commence avec une Pâque et on finit avec une Pâque. Il y a 3 ans entre les deux. Et nous savons qu'il y a 3 à 6 mois avant la première Pâque. Donc, 3 ans et demi. Et encore une fois, si le Christ est mort à la Pâque, revenez 6 mois en arrière, vous arrivez quand? Vous arrivez en septembre, octobre. Et non pas en décembre. Ça, c'est la première méthode. Une méthode purement mathématique, où vous êtes capable de prouver combien de temps le ministère de Christ a duré. Deuxième méthode, une méthode plus contextuelle. Si vous vous reportez à Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Le premier contexte que nous allons regarder, évidemment, c'est qu'est-ce que l'on trouve ici au verset 8. Luc, chapitre 2, verset 8. Luc, chapitre 2, verset 8. Il est dit ici, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la température à Jérusalem permet de garder les bergers et les moutons dans les champs à l'année longue? Je ne sais pas si vous avez vu tout récemment, mais on parlait de Gaza, qui est en Israël, et présentement, c'est le temps des pluies. On voyait les réfugiés qui étaient dans des situations précaires, mais les pieds dans l'eau. Il y avait de l'eau partout. Il pleut. Il fait froid. Donc, certains disent, mais non, à Jérusalem, il fait tout le temps chaud, les bergers peuvent rester dehors tout le temps. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Et en plus, la Bible vous dit que ce n'était pas le cas. J'ai le temps de m'y reporter, je m'y reporte. Esdras, chapitre 10. Allons dans l'Ancien Testament, Esdras, chapitre 10. Esdras, chapitre 10, verset 9. Et vous allez comprendre assez rapidement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est le retour des exilés. Nous sommes à Jérusalem. Et ici, avec l'histoire, donc au verset 7, on voit on publia à Juda et à Jérusalem et à tous les fils de la captivité de se réunir. Et donc, tous les hommes, verset 9, de Juda et de Benjamin, se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le 20e jour du 9e mois, et tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu. Regardez ce qui est écrit par la suite. Tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Et si vous continuez à lire et vous descendez au verset 13, Esdras nous dit, toute l'assemblée répondit d'une voix, à nous de faire comme tu l'as dit, mais le peuple est nombreux et le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a plusieurs parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Donc, il était impossible pour les gens de se tenir dehors. Et ils étaient quand? Ils étaient au 20e jour du 9e mois. Donc, vous avez besoin de quoi ici? Quand est le 9e mois de l'année selon le calendrier hébreu, le calendrier de Dieu? Eh bien, encore une fois, si vous connaissez votre calendrier, vous savez que la fête des tabernacles a lieu le 15e jour du 7e mois. Et quand célébrons-nous la fête des tabernacles? En septembre-octobre. Ça, c'est le 7e mois. Ici, nous sommes au 9e mois. Rajoutez 2 mois en septembre-octobre, vous êtes à la fin décembre. Et à la fin décembre, qu'est-ce que Esdras nous dit? Esdras nous dit qu'il est impossible ou pas possible de rester dehors en raison de la pluie. Est-ce que, logiquement, les bergers resteraient dehors? Non, les moutons sont entrés. Les bergers sont dans les maisons. C'est un temps peu favorable à avoir des bergers à l'extérieur. Donc, il n'y avait pas de brebis dans les champs à ce moment-là. Deuxième contexte que l'on peut regarder. Si vous vous reportez encore une fois dans Luc, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, cette fois-ci, les versets 1 et 2. Luc chapitre 2, versets 1 et 2. Il dit, « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. » Toute la terre sous l'emprise romain, évidemment. Ils n'ont pas demandé un recensement de Chine ou un recensement de l'Argentine. Ils n'étaient pas connus de l'Empire romain. Donc, on voit ici des limitations. Et ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire inscrire dans sa ville. Donc, le recensement a eu lieu quand? Et là, vous pouvez aller faire des enquêtes historiques. Chacun devait retourner dans sa ville, et la plupart des érudits vont tous vous confirmer la même chose. Le recensement était fait au moment des impôts, au moment de relever la taxe ou une taxation. Et quand avait lieu la taxation en Israël? Les taxes étaient prises sur les récoltes. Quand avait-on des récoltes qui étaient entrées? Quand célèbre-t-on la fête des tabernacles? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Lorsque vos récoltes seront rentrées, vous irez à la fête. Quand les récoltes sont-elles prises? À l'automne. Donc, quand est-ce que la taxation avait lieu? À l'automne. Si vous regardez quand le début de l'année juive commençait, c'était à la fête des trompettes. Donc, les taxations se prenaient en début d'année. Et donc, chacun se déplaçait pour aller à une année civile juive. La taxation était à trompette, donc les gens se déplaçaient aux trompettes pour aller dans leur ville natale pour se faire recenser, pour payer leurs taxes, et aussi pour aller au temple. Donc, pourquoi est-ce que les auberges et les endroits où ce que Joseph a voulu aller avec Marie était tous pleins. C'était un jour saint. Toutes les gens étaient descendus pour les jours saints à Jérusalem. Les hôtels sont pleins. Si vous retournez au temps de l'Église universelle et que nous allions à Sherbrooke, par exemple, on prenait tous les hôtels de la ville. Il ne restait plus de chambres. C'est la même chose. Donc, pourquoi est-ce que le début de l'année, pourquoi les auberges étaient pleines? Parce que les auberges recevaient les gens qui montaient au temple. Donc, ce sont des contextes ici. Vous avez trois points contextuels qui vous donnent une explication pour laquelle Joseph et Marie se sont retrouvés dans une table. Et encore une fois, qui met la naissance de Christ plus en automne. Encore une fois, au mois de décembre, dans le 9e mois de l'année, les troupeaux n'étaient pas à l'extérieur. Donc ça, c'est la deuxième méthode, une méthode de contexte. La troisième méthode, celle-ci est un petit peu plus difficile, elle vous demande un petit peu plus de mathématiques. Mais si vous reportez dans Luc 1, la troisième méthode, elle est plus mathématique. Dans Luc, chapitre 1, verset 5 à 10, il est écrit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et notez ici, verset 5, c'est important, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Et tous les deux étaient justes devant Dieu, etc. Verset 8. Et pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, donc ici on parle de Zacharie, il acquittait ses fonctions devant Dieu, verset 8, selon le tour de sa classe. Encore une fois, Abia. Il observait selon le tour de sa classe, et il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc selon sa fonction, selon sa classe, il entra dans le temple. Ça, c'est le verset 8. Et donc, on voit que cet homme, Zacharie, était sacrificateur, il était de la classe d'Abia, et il était à son tour de fonction. Pour l'instant, peut-être, ça ne vous dit rien, mais ça va vous dire quelque chose dans une minute. Maintenant, on va aller trouver l'explication. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, reportons-nous dans 1 Chronique 24. 1 Chronique, chapitre 24. 1 Chronique 24. Et ici, vous pourrez prendre le temps de lire à partir du début du chapitre. Je ne prendrai pas le temps de d'énumérer tout ce qui est dit. Mais pour accélérer un petit peu le processus, nous allons commencer ici au verset 7. 1 Chronique 24, verset 7. Et ici, vous allez voir que tous les sacrificateurs vont être divisés en 24 classes, 24 groupes, et que chaque groupe avait un temps de service devant Dieu. Et de la manière que ça fonctionnait, c'est qu'ils étaient en service pendant une semaine. Ils commençaient un sabbat et ils finissaient un sabbat. Donc, pendant une semaine. Et qu'est-ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le temps des jours saints, toutes les classes étaient en fonction. Parce qu'encore une fois, tous les gens venaient au temple. Il y avait donc énormément de sacrifices à faire lors des jours saints. Et donc, toutes les classes étaient sollicitées. Tout le monde travaillait. Donc, une personne qui était sacrificateur faisait partie d'une classe et travaillait à toutes les 24 semaines, donc deux fois dans l'année. Et ensuite, tous les jours saints. Avec ceci en tête, on commence au verset 7, c'est marqué « Le premier sort échu à Jéhojarib », donc c'était la première classe. Le second, vous le voyez, Jeda et Ja, le troisième, etc., etc., etc. Et vous descendez au verset 10, et vous allez voir ici qu'il est écrit en français, et le huitième, Abija. C'est le même nom, ou c'est le même mot, que l'on trouve dans Luc 1. Donc, nous voyons ici que Zacharie faisait partie de Abija, et il était de la huitième classe. Et donc, ici, on voit qu'ils vont servir au temple. Et si vous descendez au verset 19, il est écrit dans 1 Chronique 24, 19, « C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc, si on met ça ensemble avec ce que nous avons lu dans Luc 1, où Zacharie entre dans le temple selon sa classe, il est le huitième. Il fait partie de la huitième classe, de la huitième semaine, si on veut, mais pas directement, parce qu'encore une fois, je vais donner l'exemple, vous avez des jours saints. Donc, si on commence au début de l'année, le premier Nissan, vous avez la première classe qui rentre en fonction. La première semaine se termine, la deuxième classe rentre en fonction. Nous sommes le 7 ou le 8 de Nissan. Qu'est-ce qui se passe le 14 ou le 15? Nous avons les jours des pains sans levain. Toutes les classes fonctionnent. Après les jours des pains sans levain, on revient avec la troisième classe qui entre en fonction. Et ensuite la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième. Nous sommes au temps de Zacharie. Donc, puisque Zacharie travaillait selon la classe de son temps, donc Zacharie est probablement rentré chez lui ou rentré au service au milieu de mai, dans ces endroits-là, et il a probablement fini son service à la fin mai, début juin. On ne sait pas exactement. Et ensuite, nous allons voir que sa femme va tomber enceinte. Et donc, pour des raisons de calcul, disons que Zacharie est rentré chez lui au début juin. Ça donnait un exemple. Et maintenant, retournons dans Luc 1, s'il vous plaît. Luc 1. Donc, nous avons Zacharie qui est au temple lorsqu'il a été abordé, lorsqu'il a été averti que sa femme était pour être enceinte. Ensuite, il finit son terme, sa classe, et il retourne chez lui. Et ensuite, sa femme va tomber enceinte. Et donc, si nous allons dans Luc 1, le verset 26, on voit quoi? Il dit, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. » Donc ici, il y a un ange qui vient parler à Marie. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Bon, vous pouvez descendre pourrez lire le restant à la maison, mais ici, descendons au verset 36. Verset 36. Il est marqué, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui a été appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc, on voit ici que Jean-Baptiste est 6 mois plus vieux que le Christ. Que Jean-Baptiste va être 6 mois plus vieux que le Christ. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on part encore une fois que Marie, ou que Élisabeth plutôt, est tombée enceinte au début juin? Si vous allez 9 mois plus tard, cela nous amène à où? Quand? Donc, juin, il reste 6 mois pour aller en décembre, 3 mois pour se rendre en mars. Jean-Baptiste est probablement né autour des fêtes du printemps, en mars-avril. Si vous allez 6 mois plus tard, le Christ arrive quand? En septembre-octobre. Voyez-vous, on n'est pas capable de passer plus loin. Il est 6 mois plus tard. Donc, on vient de voir que Élisabeth a conçu, elle est 6 mois déjà enceinte. Et donc, du troisième mois, on rajoute 6 mois, on tombe à 9 mois. Au 9e mois de l'année, on est en quoi? On est en septembre-octobre. Donc, c'est votre troisième méthode. Mais vous devez passer par Zacharie pour être capable d'établir sa naissance, qui est un peu plus compliquée. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, il y a 3 méthodes qui nous permettent de prouver, hors de tout doute, que le Christ n'est vraiment pas né le 25 décembre. Vous avez la méthode mathématique, donc 3 ans et demi de ministère à partir de 30 ans. Vous avez une méthode contextuelle. Il n'y a pas de berger dans les champs. Il ne pouvait pas avoir de berger dans les champs en décembre. Le temps des impôts, les auberges étaient pleines parce que c'était des jours saints. La 3e méthode, c'est l'ordre de Zacharie. Donc, en conclusion de tout ça, c'est, voyez-vous, les jours saints de Dieu sont beaucoup plus pertinents et démontrent un tout autre plan pour l'humanité. Et c'est là qu'est l'importance de comprendre quelle est votre culture. Pourquoi vous êtes ici? Le Christ est le roi des rois et le maître de tout homme. Ce n'est pas un petit bébé Jésus dans une crèche quelque part. Il n'a jamais resté là. Il est devenu le roi des rois. Et c'est pourquoi le Christ est venu et qu'il a livré un message si important. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous devons comprendre le mensonge qu'est Noël et la nouvelle année. Ne tombons pas dans le panneau de célébrer ces fêtes. Nous devons nous en tenir loin. Et frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous ne célébrons pas Noël et le Nouvel An.